Publicité.
Attention, entrepreneurs et professionnels de la comptabilité, il est temps de transformer votre gestion d'entreprise avec Akumbago, la solution web 100% québécoise conçue pour vous. Depuis plus de 35 ans, Akumbago soutient les PME d'ici en vous offrant un écosystème complet pour optimiser chaque aspect de vos opérations. Facturation flexible, gestion des clients, fournisseurs et bien plus. Choisissez le forfait qui vous convient et bénéficiez d'un service de qualité en français depuis le Québec. Visitez dès maintenant akumba.com pour découvrir leurs solutions ou planifier une démo. Akumbago, l'allié des entrepreneurs du Québec. Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Guglielminetti, très heureux de vous accueillir pour cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 5 avril 2024. Au sommaire cette semaine, on va parler de marketing d'influence et de droit avec une avocate spécialisée dans le domaine. On parle de télétravail, mais loin de chez soi. Je parle de la réalité des nomades numériques. Ça peut être au Québec, ça peut évidemment être aussi à l'étranger. On va se rendre à Québec pour parler de la semaine numérique qui s'en vient, ça commence dans quelques jours. Et puis, on parlera aussi de Mistral, cette IA générative française qu'on retrouve désormais dans la trousse d'outils du géant AWS. Ça a été annoncé cette semaine, c'est une bonne nouvelle pour les francophones. Mes collègues sont là, il y a Jérôme Colombin avec qui on va parler du droit à la déconnexion et puis de Apple aussi, qui s'intéresse aux robots personnels. Stéphane Ricoul nous parle du nouveau rôle de la lumière et puis Jean-François Poulin nous propose la suite de son entretien avec Alexia Danton de chez Figma. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Régent Duval, que j'ai vu lors d'un panel qui se passait au CHUM de Montréal. Salutations aux gens qui ont découvert Mon Carnet lors de cet événement-là. Et puis, merci beaucoup à Régent Duval de vous être identifié comme un auditeur, un lecteur de Mon Carnet. Il y a des salutations aussi pour Simon Légaré, Pierre Z. Séguin, Sarah Motet et Vaès Casargent. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Merci à tous d'être là, c'est vraiment très apprécié. Et puis évidemment, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Allez hop, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire.
Bonjour Bruno Guglielminetti.
Jérôme Colombin, bonjour.
Coucou, j'ai oublié de faire toc-toc comme ça pour entrer dans ton podcast.
Arrête, t'es toujours le bienvenu, t'as pas besoin de frapper.
Pareillement, tu es bienvenu dans Monde Numérique pour notre débrief transatlantique hebdomadaire. Bruno, cette semaine, il faut qu'on parle de ce qui est en train apparemment de se mettre en place de ton côté de l'Atlantique, en l'occurrence aux États-Unis, en matière de ce qu'on appelle chez nous en France de droit à la déconnexion. Explique-nous ça.
Ouais, ça m'a fait penser à vous, puis j'étais curieux de faire le point sur où vous en êtes rendu, parce que ça fait longtemps que ça existe chez vous, mais c'est en Californie, puis ça a fait la manchette dans le Los Angeles Times. Il y avait un article qui a attiré mon attention, et c'est justement, il y a un législateur là-bas qui est en train d'amener ça sur le terrain de discussion, donc un projet de loi qui ferait en sorte que les employeurs ne peuvent pas contacter leurs employés hors des heures de travail prévues selon l'entente là qui les oblige, qui oblige les deux parties.
Ni par téléphone, ni par message, etc.
Quoi. Pas rien, mm-hmm. À moins que ce soit vraiment urgent ou à moins que ce soit quelqu'un qui, dont l'emploi dépend et c'est précisé dans l'entente qui régit leur relation, leur lien d'emploi. Mais évidemment, on est aux États-Unis. Je te dirais que même ici, au Canada, ça ne passerait pas comme une lettre à la poste. Et il y a énormément d'embûches et ça m'a fait penser, là j'ai été dans ma mémoire, et je me suis dit, mais les Français, eux, ils avaient fait quelque chose là-dedans. Alors, je sais que les Allemands étaient les premiers à le faire en Europe. Après, il y a la France. C'est 2017-2016, je me souviens très bien.
Tout à fait. En France, j'ai regardé un peu, c'est 2016.
Comment ça se fait depuis? Écoute, ça fait 7-8 ans, là. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que les gens vivent bien? Est-ce que maintenant, vous vivez plus heureux?
Alors, les gens vivent très bien en France, de toute manière, d'une manière générale.
N'aurions pas.
Ou pas. N'aurions pas. Je ne suis pas certain que ce soit un sujet dans la mesure où... Écoute, j'ai regardé un peu, il y a eu apparemment au moins un procès qui a découlé de ça. hein, en 2018, et il y avait un employé qui a quand même réussi à décrocher 60 000 euros de la part de son entreprise. Parce que, et oui, on lui avait demandé de rester joignable tout le temps par téléphone, alors que, et en dehors de ses heures de travail, alors qu'il n'était pas d'astreinte. Comme ça peut arriver, hein. Il peut y avoir des métiers, des fonctions comme ça où tu es vraiment d'astreinte, mais là, ce n'était pas le cas. On lui avait dû juste dit, bah écoute, c'est super avec les téléphones, tout ça, machin, où que tu ailles, on va... s'il y a un problème, on t'appelle. et voilà, et ça, ça ne passe pas. Et alors, je sais qu'aujourd'hui, je pense que dans les entreprises, c'est quand même un... les employeurs font très attention à ça. Ils font très attention, il y a beaucoup de salariés qui sont... aussi très vigilants, est-ce qu'on ne les embête pas. Mais maintenant, la situation a changé. D'abord, ça dépend des secteurs. Hein. Mm-hmm. Je pense que dans le numérique, dans les startups, etc., c'est un peu le contraire. Dans le journalisme, on a une vision complètement déformée parce que par définition, on est joignable tout le temps.
24 heures sur 24.
24 heures sur 24. Alors, il y a quand même aussi un peu un droit à la déconnexion, un droit à des vacances. Il ne faut pas exagérer, hein, ce n'est pas l'esclavage non plus. Pour répondre à ta question, si tu veux, à ma connaissance, ce n'est pas un gros sujet de friction, mais ça a été finalement bien intégré par tout le monde. Mais là où ça a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de nous déconnecter. Tu peux avoir ton WhatsApp et tu le mets en ou autre, tu le mets en sourdine. Les mails, tu n'es pas obligé de les répondre, d'y répondre, etc. Là où tu peux éventuellement faire jouer la loi, c'est si on te reproche ensuite de ne pas avoir répondu alors que tu étais en dehors de tes heures de travail, quoi, finalement. Ouais. Mais vous, au Canada, ça se passe comment ? Il y a une réglementation ?
Ben écoute, je voulais juste être certain de ne pas être à côté de mes souliers et j'ai cherché. Et il y a seulement en Ontario où aujourd'hui, il y a une législation qui encadre les communications hors des heures de travail. Mais sinon, partout au Canada et particulièrement au Québec, c'est encore le Far West. Donc, un employeur pourrait contacter l'employé hors de ses heures de travail pour faire un suivi de dossier et il serait pas embêté par la loi. Ouais. Sauf que, un peu comme chez vous, je pense que toute votre démarche et tout ce qui a été dit autour de ça a fait réfléchir des employeurs et les grands noms, les grands employeurs, eux, maintenant encadrent dans le cadre de l'hygiène de vie. Là, ça fait partie de la marque employeur, hein, la qualité de vie au sein d'une organisation. Eux ont mis en place des lois. Je pense notamment, hein, j'avais été surpris à un moment donné, je pense que c'était à Radio-Canada, l'équivalent de Radio France, où à un moment donné, j'avais reçu un courriel d'un recherchiste et puis je suis venu pour lui répondre. Et il y avait une note qui était apparue en disant la personne ne recevra pas votre courriel avant telle heure. Je disais, c'est intelligent. Ouais. Voilà.
Dis-moi, c'est quoi un recherchiste, Bruno?
C'est quelqu'un qui aide à la préparation aux émissions.
D'accord.
Ça peut être un animateur qui est à l'antenne et il va être appuyé de gens qui font de la recherche pour l'aider.
Okay. On appelle ça un attaché de production, nous.
Mais nous, on ne les attache pas. C'est la différence.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Chez nous, ils sont enchaînés. Donc, c'est ça aussi, l'explication du terme.
De là, la qualité de la vie en France.
Tout à fait. La boucle est bouclée, exactement. Vivez enchaînés, vivez heureux. À part ça, Bruno, autre sujet dans l'actu qui a frappé ta sagacité légendaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Apple et on en parle même quand il ne se passe rien.
Ben oui, mais c'est ça. Puis moi, j'ai l'impression, toi, t'es assez dubitatif toi, quand vient le temps de parler d'Apple, parce que t'as toujours ton esprit très critique qui arrive à la rescousse.
Non.
Et là, regarde, il y a cette histoire qui a été sortie par Bloomberg cette semaine et qui est en train de raconter que, maintenant qu'ils ont mis de côté la next big thing qui était l'automobile sur laquelle ils ont travaillé pendant 10 ans, Apple est en train de se chercher une nouvelle niche. La nouvelle niche, ce serait dans le domaine du robot personnel.
Du robot personnel, j'ai vu ça. Mais
Il y a deux trucs. D'abord, moi, j'ai appris en écoutant le journaliste de Bloomberg, mais aussi en faisant mes recherches, que, par exemple, le Vision Pro, ça vient de travaux qui avaient été faits dans le cadre de l'équipe automobile parce qu'ils travaillaient à voir comment ils pouvaient intégrer l'air et le VR à l'intérieur d'une voiture automobile. Et donc, les travaux ont mené au développement du Vision Pro, ça c'est intéressant. Et donc, toute la démarche au niveau de la robotisation, mais personnelle, fait aussi partie de ce travail-là. Et notamment, l'équipe avait développé une version. Imagine un iPad, mais de taille plus importante, qui aurait un bras robotisé que tu attrapes sur le bord d'un comptoir ou d'une table.
Ouais.
Et donc, à partir de ce moment-là, tu lui dis où tu veux ton iPad. Et en fonction de ta situation, il ajuste en temps réel la tablette Bon, d'accord. Comme ça peut sembler banal, mais si tu fais de la vidéoconférence avec ton iPad, peut-être que là, ça peut être important. Et là...
Mais la vidéoconférence, je te signale que tu as la fonction de suivi du visage, du mouvement, et même du mouvement du corps, qui se fait maintenant, mais de manière logicielle. Hein.
Oui, mais imagine si en plus, tu avais le bras mécanique qui te suit, alors là, tu peux vraiment te déplacer de façon importante là, dans la pièce. Ça, c'est une chose. Puis l'autre piste sur laquelle ils sont
en train... Si ce n'est pas sur un drone et que ça ne peut pas voler dans les pièces, je pense que ça n'a pas grand intérêt.
Et l'autre piste sur laquelle ils sont en train de travailler, ce serait un robot de plus grand gabarit quand même, qui pourrait te suivre dans la maison, il ne faut pas être paranoïaque, et qui pourrait aller jusqu'à faire la vaisselle, imagine. Alors, si tu n'as pas de la vaisselle, t'imagines, toi, tu peux laisser ta vaisselle sur le comptoir, il la prend, il la lave.
Mais franchement, tu y crois, ces rumeurs-là?
Le robot avec la vaisselle, non. Mais la possibilité de pouvoir rentrer dans le marché niche du robot personnel, il y a tellement d'aura autour de la marque d'Apple. Moi, j'ai l'impression que s'ils arrivent à développer, un petit bonhomme, un petit robot qui a l'air sympathique, qui peut faire des choses, moi, je suis sûr qu'il y a des millions de ces petits appareils-là qui vont se vendre. Évidemment, c'est une question de prix, là, mais bon.
Mais en théorie, parce que dans les faits, moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Apple serait le dernier à faire un truc comme ça. Parce qu'il y a déjà des tentatives. Il y a Amazon qui avait
fait ça. Amazon qui a son robot,
Qui a Amazon qui a son robot. Il y a Samsung qui a présenté deux fois son petit robot boule Bali, qui n'est toujours pas commercialisé. La deuxième fois, il était déjà plus gros, ce qui montre que pour aller vers quelque chose de concret, il a fallu sans doute mettre plus de composants que prévu.
Et il commence à ressembler de plus en plus à R2-D2, dans ses fonctionnalités.
R2-D2 ou à l'autre créature là, qui roulait dans Star Wars.
J'aime mieux R2-D2 avec sa façon de parler sa projection de vidéo qui a été tournée.
Toi, tu es de la génération de la première trilogie. Moi, qui suis beaucoup plus jeune, c'est les trilogies suivantes. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle le robot boule, mais il y a d'autres choses.
BB,
je ne sais pas quoi. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent,
ils ont percuté,
mais enfin, BBQ, BB1, je ne sais plus, je ne me souviens plus, BB quelque chose. Et en France, on a des petits robots, nous, d'accompagnement comme ça. On a Pepper, qui est un petit robot avec des jambes. On a Buddy, qui est une espèce de grosse boule avec une tête et qui peut te suivre dans la maison. Mais ça n'a jamais été des grands succès. C'est très compliqué à faire. Ça apporte pas énormément de choses parce que tout ce qu'ils peuvent faire au mieux, c'est se déplacer, te suivre, faire de la vidéosurveillance quand t'es pas là. Mais dès que tu veux leur mettre des bras pour porter des choses, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de prix, d'autonomie, de prix, etc. Puis il y a le robot Optimus Tesla. C'est déjà autre chose. Mais je ne vois pas Apple aller sur ce genre de gadget qui... je ne sais pas. Tout est possible. Mais je me demande si ce n'est pas aussi une manière de recycler tous les ingénieurs qui travaillaient sur la voiture et de leur trouver une occupation aujourd'hui.
Tu penses à tous les brevets qui ont été développés, toute la connaissance qui a été faite, ils doivent recycler s'ils veulent rentrer leur argent.
Il faut capitaliser le truc là-dessus.
Ouais. Puis c'était BB-8 ou BB-8.
BB-8 Ah voilà, très bien. Merci BB-8. Parfait.
Jérôme, dans mon numérique cette semaine, de quoi on parle?
Dans mon numérique cette semaine, j'emmène mes auditeurs visiter Notre-Dame de Paris, la cathédrale, tu sais, qui a brûlé il y a quelques années, et la visiter de manière virtuelle. Alors, c'est vachement intéressant. Il y a plusieurs animations qui ont été faites, et là...
C'est une expo?
C'est une expo, mais c'est un truc hyper sérieux, hyper scientifique. Okay. C'est Dassault Systèmes qui a fait ça en collaboration avec le CNRS. Et en fait, ils ont récupéré les travaux d'un Américain qui a été le seul à scanner l'intégralité de la cathédrale il y a plusieurs années avec des lidars. Et ils ont récupéré ces données pour en faire un jumeau numérique.
Wow. Est encore plus loin que ce que Ubisoft avait fait, là.
Oui, alors on est plus loin, mais voilà, c'est ce qu'on explique dans l'interview avec le responsable de cette exposition. Si tu veux, c'est un nuage de points, donc c'est pas toujours forcément hyper esthétique, mais en revanche, c'est scientifiquement très fiable et ça a servi à reconstruire la cathédrale, à savoir à identifier les poutres, les parties du toit, etc., etc. Donc c'est assez intéressant tout ça grâce à.
Et est-ce qu'on peut te voir assis dans la cathédrale?
Non, mais on peut me voir avec un casque de réalité virtuelle. actuelle. Okay, voilà. Ouais. Et puis sinon, eh bien, je parle de navigation GPS et avec une marque que tu connais bien, certainement, parce qu'elle a eu son heure de gloire dans le grand public, c'était TomTom. Alors, je ne sais pas si oui, c'était distribué chez vous, TomTom, les navigateurs TomTom.
Oui, mais c'était pas le grand succès parce qu'il y avait des gros joueurs américains. Mais TomTom, donc, qu'est-ce qui se passe avec eux?
Eh ben, écoute, TomTom existe toujours, hein, déjà. C'est une marque qui existe toujours, mais qui s'est recentrée sur le grand public, sur le professionnel, avec des services beaucoup plus affinés. Et on parle de toutes les évolutions technologiques en matière de navigation GPS. Donc, avec
ça, c'était des précurseurs.
Ah ouais, c'était vraiment. Tout le monde avait son petit. Enfin, en France, tout le monde ou presque. Avait son petit récepteur TomTom. Je suis sûr que tu en avais un chez toi. Eh ben voilà, tu en avais un chez toi que tu me montres à la caméra là.
Eh oui,
magnifique.
C'est dans ton TomTom que j'ai mis dans ma bibliothèque. Les gens peuvent le voir.
Dans ton musée, dans ton musée des horreurs, j'allais dire.
Bon, écoute, si c'était aussi déplaisant, je pense que c'est le temps de te laisser retourner dans ton podcast.
Oui, et puis. Je vais retrouver mes robots. Tu sais que j'ai un robot, une intelligence artificielle qui s'est chargée de la partie actualité cette semaine dans mon numérique.
Et on va pouvoir donc l'entendre.
Ah ben on l'entend, ça y est, c'était juste avant qu'on se parle et c'est une espèce d'expérimentation technico-journalistique. Voilà, j'attends.
Ouais, est-ce qu'il fonctionne mieux que celui qui essaie de faire le ménage dans ta pièce?
Beaucoup mieux, beaucoup mieux. J'en suis vraiment étonnamment content. Ouais.
Écoute, je te félicite.
Mais on en reparlera, on verra.
Ok. Bon, ben on verra ce que tes auditeurs en pensent.
Tout à fait.
Si ça vous intéresse d'aller écouter mon numérique, ben c'est simple. Hein? Une fois que mon carnet est terminé, vous allez sur toutes les bonnes plateformes ou vous allez sur mon numérique, puis vous allez retrouver facilement un lien pour aller écouter Jérôme et le suivre dans ses péripéties.
Et pareillement, j'invite les auditeurs de Monde Numérique à aller écouter mon carnet, hein, bien sûr, comme chaque semaine, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Mon cher Bruno, je te dis à la semaine prochaine.
Je te dis hasta luego.
Hasta luego.
Dans le monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui, où chaque clic peut se transformer en une opportunité commerciale, le marketing d'influence s'impose comme un vecteur de choix pour créer des ponts solides entre les marques et les consommateurs. Mais au-delà du potentiel viral, quelle est la trame légale qui encadre ces collaborations, souvent scrutées sous la loupe de l'authenticité et de la transparence? Il y a une avocate qui se spécialise dans le domaine du marketing d'influence, qui travaille avec les créateurs, qui vient de publier un livre sur le sujet qui s'intitule « Guide pratique sur le marketing d'influence » et c'est publié aux éditions Yvon Blais. On la rejoint à l'instant. Bonjour Aïcha Toré.
Bonjour.
Aïcha, pourquoi écrire ce livre maintenant sur les aspects légaux du marketing d'influence? Ça fait un moment que vous êtes là-dedans. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur en particulier?
Je vous dirais que mon déclencheur premier, mon but premier dans l'écriture de ce livre-là, c'était déjà d'avoir une ressource écrite à ce sujet-là à un seul et même endroit. Donc, j'avais l'impression déjà qu'il n'y avait pas de livre de rédiger sur les aspects juridiques du marketing d'influence. Et surtout que j'avais l'impression que beaucoup de gens avaient de la difficulté à trouver l'information nécessaire et aussi à naviguer un peu cet écosystème qui n'est pas toujours simple.
Pour que ça soit plus clair dans la tête des gens qui nous écoutent, à quoi ça ressemble un exemple concret de cas juridique propre au domaine du marketing d'influence?
Bien, je dirais que le cas de base, en fait, c'est une entreprise qui veut lancer une campagne de marketing d'influence pour faire la promotion d'un produit ou d'un service. Et donc, dès en fait l'idéation de la campagne, il y a déjà des problématiques, mais il y a déjà des enjeux juridiques qui se créent. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire affaire avec l'influenceur avec lequel on fait affaire? Est-ce que lui a le droit de faire affaire avec nous? Est-ce que le genre de campagne qu'on veut faire est légal? Est-ce que les propos qu'on veut inclure à la campagne sont légaux? Si on veut faire affaire avec tant de personnes dans le cadre de la campagne, comment on fait? Si on veut inclure de la musique, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on peut sur une plateforme oui, mais sur une plateforme non? Quand même beaucoup d'enjeux assez rapidement dès le début.
Vous parlez de plateformes. Est-ce qu'il y a des plateformes de réseaux sociaux qui sont plus problématiques du point de vue légal là, par rapport à des campagnes de marketing d'influence?
Je dirais pas qu'il y en a des plus problématiques que d'autres. Chacune ont leur particularité. Donc, il y a certaines plateformes qui vont avoir la particularité par rapport à ce qu'elles permettent comme promotion sur leur plateforme. Il y en a où leur particularité, ça va être au niveau de la musique. Il y a des plateformes qui vont avoir plusieurs types de comptes Et donc, chaque compte vient avec ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire en termes de légalité aussi. Donc, je ne dirais pas qu'il y en a une de plus complexe qu'une autre.
Il y a un an et demi environ, on s'était parlé, puis vous, ça fait pas mal plus longtemps que ça que vous aidez les créateurs du numérique. Est-ce que vous trouvez qu'avec le temps, les marques et les influenceurs se protègent mieux?
Est-ce qu'elle se protège mieux? Globalement, je pense que oui. Je pense que les entreprises se protègent mieux juste par
Les
justement
contrats.
par on apprend. Oui, ben les, oui,
Ouais.
en effet, les contrats et on apprend au fur et à mesure qu'on fait des campagnes. Donc c'est sûr que plus on en fait, plus ces entreprises-là apprennent et plus les modifications se voient dans les contrats. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre pour beaucoup d'intervenants dans ce milieu-là.
Où vous voyez les principaux problèmes?
Pour moi, j'en ai parlé récemment, le grand problème découle, un, de la multiplication des intervenants. Donc, parce que des fois, on a l'impression que c'est juste un client puis un influenceur, mais souvent, il y a un client et un influenceur, l'influenceur est représenté. Souvent, le client va engager une agence de marketing qui, elle, va être l'intermédiaire, qui va discuter avec
On est rendu à
l'influenceur.
quatre ou cinq personnes, oui.
Exactement. Et cette multiplication-là des intervenants fait en sorte que tout le monde n'est pas nécessairement conscient des enjeux des autres et ben, de ce qu'il faut garder en tête. Et mis à part ça, il y a juste en général beaucoup de cadres législatifs qu'il faut connaître et qu'il faut respecter dans ce milieu-là. Et donc, les deux ensemble font en sorte que ça peut créer des problématiques assez je veux dire, intéressantes, légalement parlant,
Ben pour une avocate,
complexes.
j'imagine, ouais.
Mais complexe, oui.
Il y a tout le volet, puis ça, c'est encore une des zones grises dans le marketing d'influence, la divulgation. On a l'impression qu'avec le temps, on saurait qu'il faut le dire, mais de part et d'autre, autant de la part des influenceurs qu'autant que des clients qui veulent faire affaire avec eux, on a l'impression que c'est une ligne fine où les gens essayent de danser. Est-ce que je me trompe?
Je pense pas que vous vous trompez quand vous dites que c'est une ligne que les gens essaient de danser.
Ouais.
Par contre, moi, j'aurais tendance à dire que la plupart du temps, la ligne, elle est assez claire. Je pense que c'est plus un. On a envie que ça soit flou, mais dans la réalité, je pense pas que c'est si flou que ça,
Parce que
comme on
dans
dit
les
après.
faits, il faut être clair par rapport à ce qu'on produit et ce que les gens vont voir.
Exactement. L'obligation de base, en fait, de la divulgation, c'est la personne qui voit ma publication doit comprendre, un, s'il y a un lien matériel ou non entre moi et l'entreprise, et deux, c'est quoi la nature. C'est aussi simple que ça. Il faut que la personne, dès qu'elle regarde la publication, elle le comprenne.
Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où le marketing d'influence soulève plus d'enjeux, où ils sont plus
Je
importants?
ne dirais pas qu'ils sont plus importants, mais je pense que oui, ça soulève plus d'enjeux parce que les influenceurs, à la base, je pense, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas nécessairement conscients de toutes les obligations légales en fait qui leur incombent. Donc, si on regarde juste le domaine de la publicité par lui-même, les gens qui travaillent en agence de pub, etc., après un certain temps, on comprend ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Mais c'est vrai que pour beaucoup de créateurs de contenu qui n'ont jamais eu à penser à ça, c'est peut-être pas un réflexe. Puis je pense notamment, il y avait eu un cas, je pense, il y a quelques années avec un ancien participant d'Occupation Double qui avait fait une pub pour du sirop pour la toux NyQuil, mais lui était membre de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Et donc, les obligations déontologiques à respecter en matière de publicité, lui aussi, dont il n'était probablement pas conscient, parce que c'est vrai qu'au jour le jour, la plupart des professionnels, on se dit pas, on parle pas de nos obligations en matière de publicité, parce que la grande majorité des gens ne sont pas dans le domaine, n'ont pas particulièrement à faire de la publicité. Et donc, je pense que surtout du côté des créateurs de contenu, ça peut être difficile à gérer. Et aussi pour les autres intervenants qui, probablement eux non plus, n'avaient pas réalisé que la personne faisait partie de l'ordre et qu'elle avait elle aussi des obligations à respecter.
Tout à l'heure, je vous posais la question par rapport au fait de l'évolution, par rapport aux influenceurs et aux entreprises. Maintenant, s'ils étaient au fait, ils se protégeaient mieux. Mais de l'autre côté, si on regarde le cadre légal lui-même, est-ce que vous trouvez que ça évolue, ça, pour mieux encadrer et mieux répondre à la réalité?
Est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue parce que bon, il y a quelques années, des lignes directrices, on n'en avait pas, des documents clairs faits pour les non-juristes, en fait, par les instances gouvernementales qu'elles comprennent ce qu'elles peuvent faire, qu'elles ne peuvent pas faire. On n'avait pas ça avant. Donc, on se basait sur ce qui était fait aux États-Unis. Maintenant, on a ces lignes directrices-là. Après, je pense pas que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de législation. La législation, elle est là et elle existe. Je pense qu'on a un problème de compréhension de l'application et peut-être aussi du désir d'application de ces lois-là.
Et on peut entendre ce qu'on veut dans votre réponse.
Oui.
Quel conseil vous donnez à un influenceur pour mieux comprendre les spécificités du marketing d'influence dans son domaine, mis à part l'achat de votre livre, là, évidemment, ce serait de
Ouais.
bonne guerre, mais pour aller, pour poursuivre en parallèle, ce serait quoi le meilleur moyen?
Ben déjà, je pense que c'est important de penser à ce qui nous incombe nous-mêmes comme obligation et ce qu'on peut faire par rapport à ça, et plutôt c'est la responsabilité des autres. Donc, l'influenceur ne peut pas connaître toutes les lois applicables en matière de publicité dans les domaines de tous les produits, tous les services dont il va faire la promotion. C'est pas vrai qu'on peut demander à un influenceur de connaître toutes les obligations pour faire la promotion de nourriture, toutes les obligations pour faire la promotion de services professionnels, de jouets pour enfants, tout ça. On peut pas demander ça à un influenceur. Par contre, un influenceur doit savoir ce qui s'applique à lui ou à elle. Et donc, déjà, je pense que de prendre connaissance des lignes directrices sur la divulgation des normes de la publicité, ce serait déjà la base. Prendre connaissance des positions de la loi sur la protection du consommateur, ce serait déjà la base. Et après ça, je pense il y a un travail de constitution de son équipe. Donc, je pense que c'est important d'avoir des gens autour de nous qui sont bienveillants et qui savent aussi ce qu'ils font et qui sont conscients de ces enjeux juridiques-là, que ce soit un agent individuel, une agence, peu importe. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi une obligation de communication qui est importante. On va dire, moi, si j'ai des obligations juridiques qui m'incombent et qui sont propres à moi parce que je fais partie d'un ordre, parce que j'ai signé avec une équipe de sport professionnel, peu importe, de les communiquer et de demander de la part des gens avec qui on travaille aussi de communiquer leurs obligations à eux. Parce que moi, si je suis influenceur et que je travaille avec une entreprise dans le domaine médical, ben, je m'attends à ce que l'entreprise me dise qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire sur son produit et son service. Ça, c'est pas à moi de savoir ça.
Puis c'est important, je pense, de le rappeler. Ce que vous dites, ça s'applique autant à l'influenceur, bon, vous parliez de gens qui sont connus, mais aussi à des nano ou des
Bien sûr.
macro-influenceurs, là. Du moment qu'on prend sa présence numérique pour annoncer quelque chose, de vendre quelque chose, on est concerné par tout ça, là.
Absolument. La taille n'a pas, ne fait pas de différence dans ce cas-ci, absolument.
En terminant, est-ce que vous trouvez que la France est un exemple dans le domaine du marketing d'influence par rapport à son encadrement avec la loi qu'ils ont sortie là, en juin passé, la loi sur les influenceurs? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne approche dans le domaine?
Je pense que oui, c'est une bonne approche parce que je pense que ça a fait, c'est ça fait en sorte que beaucoup d'influenceurs, tout d'un coup, se sont sentis concernés. Je pense que un des problèmes qu'on a en ce moment, tu disais, le problème, c'est pas l'évolution des lois. Les lois, elles existent. Mais j'ai l'impression que beaucoup de créateurs de contenu n'ont pas l'impression qu'elles s'appliquent à eux. Si on leur parle alors de la protection du consommateur, rapidement comme ça, la plupart se dire que ça ne s'applique pas à eux, la loi sur la concurrence, etc. Alors que je pense que ce que la France a bien fait, c'est de dire on va créer des lois pour les influenceurs, dont certaines dispositions existaient probablement dans d'autres lois, mais tout d'un coup, ces gens-là se sont sentis concernés et c'est beaucoup plus facile, je pense, de demander à quelqu'un de respecter les lois quand ils sont concernés, en fait, à la
Quand tu
base.
vois le nom de son métier dans la loi. Mais est-ce que vous aimeriez voir le même type de loi à être adoptée ici au Québec ou au Canada?
C'est une bonne question que vous me posez. Je ne sais pas si on a besoin de ce type de loi-là. Je ne sais pas si on a besoin de supplémenter notre régime législatif avec ce genre de loi-là. J'imagine qu'on verra dans les années à venir, mais bien que notre régime législatif n'est pas nécessairement complet en ce moment, je pense qu'on en a un qui est quand même solide. Le problème qu'on a, c'est le faire respecter.
Le faire connaître et le faire respecter.
Exactement. Parce que moi, j'en vois là, de la violation là, tous les jours quand je me promène sur Instagram et sur TikTok.
À Châtery, vous êtes avocate spécialisée dans le domaine des créateurs et vous venez de publier un guide pratique sur le marketing d'influence aux éditions Yvon Blais. Et pour les gens qui sont intéressés à mettre la main sur le livre, bien évidemment, en faisant une recherche, ils vont trouver. Mais sinon, je mets un lien sous le descriptif de cet épisode et vous pourrez trouver un lien pour aller acheter directement le livre en ligne. Et il n'y a pas de lien commercial avec ce lien-là. Il faut
En
faire
aucun
ça en
cas.
bonne et due forme. Exactement.
Ouais.
Aïcha, merci beaucoup et je vous dis à la
Ben, merci à vous.
prochaine.
Merci beaucoup.
Parlons maintenant d'une révolution silencieuse accélérée pendant la pandémie, l'essor du travail à distance. Cette nouvelle possibilité nous a ouvert les portes d'une liberté nouvelle, redessinant les frontières entre le travail et le voyage. Et il y a 2 semaines environ, j'ai vu un article sur le sujet sur le site avenue.ca, rédigé par la journaliste Marie-Julie Gagnon. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'approfondir ce sujet-là avec elle. Alors, je l'ai invitée pour en jaser. Bonjour, Marie-Julie Gagnon.
Bonjour, Bruno.
Marie-Julie, quand je pense à nomade numérique, tu es probablement la première personne qui me vient en tête parce que depuis que je te connais, puis là, ça commence à faire un bon moment, je t'ai toujours vu partir à quelque part en train d'en ramener des histoires ou sinon en train d'écrire un nouveau livre. Ça fait longtemps, toi, hein, que tu fais partie de cette communauté de gens qui télétravaillent à l'extérieur de leur domicile à eux, là.
Ben, je pense que plusieurs journalistes ont fait un peu la même chose depuis toujours. Je pense juste à des collègues qui envoyaient des reportages vidéo même. C'était plus compliqué. Ça, je l'ai fait même à une certaine époque, au début des années 2000. Donc oui, il y avait l'écrit, mais la vidéo, c'était plus compliqué. Il fallait envoyer des reportages physiques, des cassettes avec des plans
Des plans de montage,
rédigés.
ouais.
Oui, des plans de montage pour que ça puisse être monté une fois à Montréal. Ce genre de choses-là, je pense, pour les journalistes, ça fait partie de la vie depuis longtemps. Dans mon cas, comme je suis une journaliste pigiste, puis je me suis toujours beaucoup intéressée à la technologie, c'est quelque chose que très tôt j'ai intégré dans mes voyages, effectivement. Puis comme ben, même en voyage, je ne pouvais pas m'empêcher de tomber sur des sujets de reportage ou même dans un contexte de vacances ou de stage, je me retrouvais toujours un petit peu à travailler parce que j'en avais envie, puis j'avais surtout cette espèce de pulsion de partager ce que je découvrais. Disons que j'ai des souvenirs à la fin des années 90, à Ouagadougou, où l'Internet était plutôt lent pour envoyer mes textes à filles d'aujourd'hui à l'époque.
Mais bon. Mais particulièrement dans ton domaine aujourd'hui, la pratique du télétravail, c'est difficile de faire autre chose là, quand on est dans le domaine du voyage. Si on veut vraiment arriver à produire, tu te retrouves à toujours écrire où t'es pour livrer ce papier-là puis passer à une autre destination ensuite.
Ben, le journaliste voyage à la pige, c'est une drôle de bibitte, cette affaire-là, parce que souvent, on part en sachant pas précisément quand notre reportage va être publié. On sait qu'on a un oui d'un média quelconque ou de plusieurs médias, mais la date de publication est toujours un peu nébuleuse, mais parfois c'est concret. Ça dépend. Il n'y a pas, je dirais, un modèle qui existe pour tous les médias qui est uniforme, mais ça veut dire que parfois je me retrouve, oui, à écrire sur place le reportage sur la destination où je me trouve, mais ça arrive aussi que je dois écrire un article que je dois livrer sur une autre destination alors que je suis à l'autre bout du monde. Il y a toutes sortes de situations comme ça qui peuvent être possibles. Puis ce que j'ai eu envie de faire aussi ces derniers temps, la pandémie a quand même apporté une espèce de liberté d'un mouvement pour beaucoup de monde. Là. Puis là, pas seulement pour les journalistes, puis je le constate aussi quand je voyage parce que j'ai beaucoup plus d'opportunités d'aller travailler dans des espaces créés pour les gens justement qui ont envie de télétravailler. On pense bien sûr aux espaces de coworking qui sont très, très populaires depuis une dizaine d'années. On voit ça émerger un peu partout sur la planète. Mais même parfois des hôtels auxquels on ne pense pas forcément ont installé cette pratique-là. Puis pendant la pandémie, il y a carrément des hôtels qui sont devenus des lieux de télétravail aussi. Donc, on sent que la pandémie a amené une espèce de facilité pour les gens qui ont envie de télétravailler ailleurs. Puis oui, cet hiver, je l'ai fait, là. J'avais beaucoup, beaucoup de reportages à livrer. Je suis allée 2 semaines en Colombie. Je me suis installée dans un endroit où je savais que j'aurais un excellent Internet, vraiment un excellent accès à tout, en fait. Internet, la bouffe pas loin, du café, un lit qui était presque dans le même bâtiment. Comme ça m'a permis vraiment d'écrire sans distraction puis de livrer les reportages que je devais livrer. Donc, il y a aussi tout ça qui a été facilité, je dirais, depuis la pandémie.
Donc, ce n'est pas une illusion, les conditions se sont améliorées pour les gens qui veulent aller
Ah
travailler à
ouais.
l'extérieur.
Ouais. Puis, tu sais, une chose aussi que je trouve vraiment intéressante, c'est que l'ouverture des employeurs en général a permis aussi l'émergence je dirais pas de programmes, parce qu'il y en avait plein qui existaient déjà, mais disons de marketisation de ces jours de télétravail-là de façon un peu plus frontal. C'est pas quelque chose que tout le monde disait nécessairement. Ah, oh, je m'en vais travailler. Oui, il y a des, je connais des écrivains, par exemple, qui allaient une semaine ou deux dans le sud pour écrire sans distraction. Ça, on l'a vu, mais c'est des gens peut-être un peu plus privilégiés qui le faisaient. Mais là, ce qu'on voit, je pense à Vaolo, par exemple, qui est un site où on trouve plein de petits hébergements villageois. Donc, c'est un site qui a été créé vraiment avec des valeurs liées au tourisme durable. On veut mettre de l'avant des hébergements responsables, mais aussi souvent tenus par des particuliers ou vraiment des petits groupes. Et c'est un peu partout à travers le monde. Donc, c'est un réseau qui a été créé au Québec. Et eux, ce qu'ils ont eu envie de faire dernièrement, c'est de rassembler. En fait, ils ont contacté certains de leurs membres parce que c'est pas comme les bookings de ce monde là, où on retient un pourcentage lorsqu'on loue. Eux, c'est vraiment dans une optique de faire connaître et de mettre en lien les voyageurs et les gens qui ont quelque chose à offrir aux voyageurs. Et donc, ils ont créé des espèces de forfaits de télétravail. On peut aller fouiller sur leur site et on va trouver une liste d'hébergements à 50 % de rabais dans des périodes où il y a moins de voyageurs. Ça, c'est moi ce que je trouve dans les exemples win-win, là, en bon québécois, là. Je trouve ça très, très positif de créer ce genre de forfait-là. Puis, il y en a au Québec, là, parmi leurs forfaits proposés. C'est-à-dire qu'on va occuper un espace qu'il ne serait probablement pas autrement. Donc, l'endroit, que ce soit un hôtel, un petit gîte ou une auberge, parce qu'il y a beaucoup d'auberges aussi dans tout ça, va avoir des clients, mais avec justement un prix réduit pour les gens qui n'auraient peut-être pas pensé à aller là forcément, mais qui cherchaient un endroit tranquille où écrire ou poursuivre un projet, que ce soit d'écriture, que ce soit, il y a beaucoup, beaucoup de gens, je voyais des architectes aussi maintenant qui font ça, des gens de tous les domaines qui s'en vont comme ça travailler ailleurs, soit pour changer d'air, pour renouveler l'inspiration aussi, et parfois juste pour trouver un endroit tranquille dans un contexte qu'on a envie de découvrir. Pour moi, c'est une merveilleuse façon de voyager. Puis sincèrement, si je regarde a posteriori, là, avec le recul, en fait, souvent, c'est ce qui m'a amené aussi à voyager, c'est de pouvoir marier les deux, de pouvoir m'installer dans un endroit, dire je peux faire mon travail et le soir, ben pouf, je m'en vais explorer un petit peu ou en après-midi. Moi, je trouve que c'est le meilleur mode de vie. Puis ça rejoint aussi les valeurs de slow travel, c'est-à-dire qu'on ralentit, on passe plus de temps dans une destination. Pour moi, tout ça mis ensemble, c'est, en tout cas, en date d'aujourd'hui, c'est ce que je préfère parce que pour vrai, j'aime ça, moi, travailler. Je fais pas partie des gens qui rechigne à écrire un texte. Oui, des fois, ça ne me tente pas, mais j'aime ça, travailler. Ce n'est pas un sacrifice pour moi de travailler. Puis ça me permet de gagner ma vie, donc il faut que je le fasse. Et de le faire dans un cadre que ça nous tente d'explorer, ben ça alimente encore plus, justement, les futurs reportages, ça alimente les idées. On rencontre des gens qui font la même chose ou qui font complètement autre chose, mais qui vont nous amener de l'eau au moulin. Moi, je vois tout ça dans une espèce de perspective d'échange, puis de renouvellement de l'inspiration. Et oui, se poser dans un endroit en solo, quand il n'y a personne autour, ça permet parfois d'aller bien plus vite dans le travail.
Oui, puis c'est une autre façon de découvrir un lieu parce que c'est, tu
Vraiment.
sais, le fait de travailler pendant la journée, en tout cas avec les
Ouais.
fuseaux horaires qui jouent là, mais de travailler pendant
Ouais.
la journée, de sortir aller faire son épicerie ou de sortir aller manger puis après de revenir, on n'est pas dans le même rythme que si on part à la
Tout à fait.
découverte 24 heures sur 24 en voyage, là. C'est pas
Oui,
pareil.
puis en 2024, moi, j'ai vécu au début des années 2000, je vivais à Taïwan, en Asie, et j'avais un ordinateur portable, donc je m'étais organisée dans l'endroit où je vivais, j'avais les fils, je pouvais me brancher, je pouvais travailler de là, mais à un moment donné, tout a lâché. Mon ordi a lâché, Internet a lâché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à aller fréquenter assidûment les fameux cybercafés de l'époque, qui étaient très
Avec beaucoup
bruyants,
de gamers à côté.
très enfumés, très bruyants, parce qu'il y avait beaucoup de gamers tout autour, et surtout avec un clavier chinois.
Ah
Il
oui.
fallait que je copie-école les accents, tout ce qui est ponctuation en français, il fallait que je copie-colle tout ça. Donc, c'était une autre expérience. Honnêtement, j'en garde des souvenirs exaspérés, mais parfois émus aussi, parce qu'il y avait quelque chose de fascinant de me dire, OK, là, je suis vraiment dans. Mais il fallait que je me concentre. J'ai appris à me concentrer dans des contextes. Je pense que c'est là où j'ai commencé à développer mon hyper-focus, dans des moments où il faut que je livre quelque chose, puis être vraiment concentrée. Puis même encore, parfois, je cherche à reproduire. J'aime ça parfois aller dans des cafés où c'est le bordel parce que ça me force à rester concentrée. Bref, là, on tombe dans la psycho. Mais j'ai vécu ces époques-là aussi. Il y avait des endroits qui étaient ouverts 24 heures. Il y avait des endroits, c'était vraiment des lieux de vie fascinants où effectivement, il y avait des gamers à 99 %. Puis moi, j'étais l'espèce d'extraterrestre qui louait un ordinateur à côté. Mais c'était une façon de travailler à l'étranger avant l'époque du télétravail ou du nomadisme numérique. Tu sais, c'était pas aussi facile de transporter son bureau. Aujourd'hui, ça l'est. Ben, pourquoi ne pas en profiter quand on peut? Quand on peut surtout rester plus longtemps, qu'on essaie d'apporter un peu plus à l'économie, disons, locale en choisissant les lieux où on va aussi. Puis bon, évidemment, on n'essaie peut-être pas de prendre l'avion trop souvent, parce que je le dis souvent, c'est l'affaire qui dommage le plus, là. Mais quand on peut combiner plusieurs choses ensemble, moi, je trouve que les conditions sont réunies pour quand même trouver son bureau pas mal plus intéressant.
Est-ce que ça existe, le paradis ou de très bonnes destinations pour des nomades
Ouais.
numériques? Et puis ça, je pense autant à l'étranger qu'au Québec, là, ou au
Ouais, ah ben, il
Canada.
y en a plein,
Ouais.
mais au Québec, il y en a des tonnes. C'est ça aussi, tu sais, les gens. J'ai écrit un article sur avenue.ca récemment parce que c'est avenue.ca, c'est un site qui existe, qui a été créé par la FADOC. Donc, on s'attend à ce que ce soit surtout des retraités. Mais c'est une dame de 75 ans qui avait écrit au site en disant qu'elle aimait me lire et que ça l'intéressait beaucoup d'avoir plus d'informations sur le télétravail parce qu'elle continue à télétravailler. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, je dis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les codes du travail sont liés, on n'arrête plus forcément, sont mélangés, puis on n'arrête pas forcément de travailler à 65 ans. La retraite, c'est plus la même chose qu'avant. Et c'est une belle façon, même au Québec, de justement découvrir notre province. Puis parfois, en tombant sur un lieu qui nous semble parfait pour aller travailler, on découvre une place, mais une ville, un village auquel on ne serait peut-être pas intéressé. Puis finalement, il y a plein d'opportunités, tu sais. Puis bon, là, je parlais de Vaolo. Vaolo, ils en ont des destinations québécoises qui sont mises de l'avant. Ça, c'est une bonne piste pour les gens qui veulent aller fouiller dans leur section dédiée vraiment à ces rabais en télétravail-là. Il y a des projets qui existent aussi. Il y en a un qui s'appelle Remote Year. Et ça, c'est en discutant avec quelqu'un que j'ai interviewé récemment à Marianne Aiguavert pour un article, ben pour l'article dont je parlais justement. Elle me rappelait l'existence de cette compagnie-là qui permettait d'aller télétravailler pendant un an quelque part. Puis là, on parle d'il y a une dizaine d'années, je pense. Non, pas ben, presque une dizaine d'années. Je pense que c'est 2016 que ça a été fondé, en tout cas dans ces années-là. Et en gros, on partait un an. Maintenant, ils ont créé des forfaits d'un mois. Donc, eux, ils prennent en charge toute la logistique pour organiser qu'à destination, on ait un endroit où loger avec tout l'équipement nécessaire pour travailler adéquatement. Puis c'est une communauté, donc eux, ils favorisent justement les discussions entre les gens qui pratiquent ce genre de séjour-là, de télétravail. C'est, je dirais, comme le nomadisme numérique, c'est plus forcément d'être longtemps, pendant des mois, à ne faire que ça. Il y a comme vraiment une nouvelle façon, je trouve, que je remarque, en tout cas, d'aller juste télétravailler pour des courtes périodes. Souvent, c'est pour changer le mal de place, c'est pour couper l'hiver en deux, c'est pour justement aller vivre autre chose à travers son expérience de travail. Donc, il existe plusieurs options comme ça. Au Québec, il y en a plein, plein, plein. J'étais au Spicenan il y a quelques semaines, qui ne mise pas du tout sur le télétravail, là, je tiens à le dire, parce que ça reste un lieu où on prend soin de soi. On va là pour prendre soin de soi d'abord et avant tout. Mais je trouve ça intéressant parce que quand on regarde la liste de leurs forfaits, ils ont quand même un forfait qu'ils appellent télétravail. Donc, on peut très bien télétravailler. Et moi, comme j'avais des deadlines, je n'ai pas pu complètement me laisser dorloter et profiter pleinement de tout ce qu'il y avait sur place parce que je devais travailler. Mais encore là, ce n'était pas un sacrifice parce que j'étais fichtrement bien installée dans un endroit silencieux, agréable, confortable. J'étais nourrie parce que ça faisait partie du forfait et très bien nourrie. Genre, pas de gluten, pas de produits laitiers. Tu sais, vraiment, c'est comme quelque chose où on prend soin de soi. Puis en même temps, ben, moi, pour moi, c'était un sacré beau bonus de pouvoir travailler dans un espace hyper calme. C'était génial. Donc, il y a des options comme ça auxquelles on ne pense pas, qui existent.
À
Je...
l'étranger, ça peut ressembler à quoi?
À l'étranger, moi, j'ai découvert les hôtels, les hostels, plutôt Celina, lors de mon récent voyage en Colombie, et j'ai adoré la formule. C'est des auberges de jeunesse. Donc, quelqu'un qui veut aller dormir dans un dortoir à moindre coût peut le faire, mais il y a aussi des chambres privées pour les plus vieux et un petit peu plus douillets comme moi, qui en grandissant, peut-être en le sommeil plus léger et envie d'un peu plus. Ça n'a pas besoin d'être un grand espace, juste fermé puis que la salle de bain soit dans ma chambre, ça me convient. Donc, ça permettait justement d'allier. Le tourisme, parce que j'ai quand même fait pas mal de tourisme malgré tout. Puis là, à Carthagène particulièrement, moi, ce que j'aimais, c'est que j'étais littéralement dans le même bâtiment. Moi, c'était le bâtiment d'en face dans ce cas-ci, mais l'espèce d'espace de coworking, il y a une petite terrasse, donc on peut aller dehors travailler si on en a envie. Il y a deux étages avec vraiment des salles différentes, des salles fermées. Il y a une espèce de cabine téléphonique pour les gens qui ont des appels à faire. C'est tellement bien pensé. Puis Celina, c'est une chaîne, il y a plusieurs autres. Ben, hostel, auberge, comme ça, à travers l'Amérique du Sud, surtout, mais un peu partout. Donc, pour moi, c'est une belle option, une belle découverte. C'est clair que je vais le refaire. Là, je mijote déjà l'idée d'aller étudier l'espagnol en matinée, puis travailler l'après-midi dans un lieu comme ça. Puis, je regardais des écoles, puis des adresses, puis j'ai trouvé deux endroits où il y avait un Célina pas loin, à Antigua et à Lima. Donc là, je suis en train de mijoter ça pour l'hiver prochain, là, puis ça m'excite beaucoup, ce genre de projet-là. Parce que c'est ça, c'est agréable de mélanger tout ça. Moi, j'aime ça, j'aime ma bulle de travailleuse, mais j'aime aussi parfois juste aller jaser avec quelqu'un parce que ça donne qu'on est dans un même lieu ou en train de faire la même affaire ou juste dans un bar d'auberge. Tu vas boire un verre, tu vas manger, tu tombes sur des gens, tu te mets à jaser. J'aime cette espèce de mélange-là. Je peux avoir la sainte paix, puis je peux avoir un côté social si j'en ai envie.
Est-ce que l'Asie du Sud-Est, ça demeure aussi encore
Ah
un bon
ouais.
lieu? Oui.
Ouais. Mais moi, ça restera toujours pour moi mon coin du monde, chouchou pour plein, plein de raisons. Puis c'est vrai que c'est facile. Puis ça aussi, je suis allée souvent en Thaïlande pour plein de raisons. Puis je me retrouvais toujours à travailler parce que j'avais des dates de tomber. Puis la vie fait qu'il faut que je gagne ma vie. Et sincèrement, ça a toujours été assez simple. Mais ça en fait partie aussi des endroits où j'ai copié-collé des accents, là, dans les cafés enfumés à l'époque. Mais oui, ça reste vraiment une des destinations de choix. Il y a des communautés, par exemple à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, qui sont très, très bien structurées. Je pense à Jean-Michel Dufaux aussi, qui est un journaliste, mais surtout un animateur et grand voyageur, qui a vécu pas mal aussi dans ces coins-là. Puis lui aussi, il a toujours trouvé moyen de travailler sur place, dans des cafés. Il y a plein de cafés merveilleux aussi où on peut travailler. Ça dépend de ce qu'on recherche. On peut trouver des espaces de coworking facilement. Puis il existe aussi une carte. Pour les gens qui se demandent, mais où je pourrais aller faire ça, moi, du télétravail, il existe une carte, je ne me rappelle plus de son nom précis, là, il faudrait que je la retrouve, je l'avais mentionné récemment, une carte dans laquelle on peut fouiller. Ah, ça s'appelle Cowork Maps, je l'ai devant moi, Cowork Maps. Et cette carte-là peut nous dire où il y a des espaces de coworking, si on va dans une ville, par exemple, puis qu'on cherche ce genre d'endroit-là. Donc, ça peut être chouette. Puis, il y a aussi, tu sais, l'industrie du tourisme, des auberges, ça a beaucoup évolué aussi au fil du temps. Hein. Puis, il y a comme une espèce de mélange qui se fait. Je trouve la frontière entre les deux, parfois, est assez mince. Il y a une chaîne que j'adore, moi, qui s'appelle Citizen M. C'est vraiment un hôtel, des petites chambres confortables, axées sur le tourisme durable, rien, pas de flafla. Mais ils ont des espaces de coworking. Donc, si on a envie de plus grands espaces avec vraiment de la place, on en trouve un peu partout en Europe, on en trouve aux États-Unis beaucoup aussi. Moi, quand je sais qu'il y a un Citizen M dans le coin, généralement, c'est là que je vais si je n'ai pas envie de me casser la noix, parce que je sais que je vais avoir du bon Internet, puis un endroit où bien manger, prendre une bouchée et travailler.
Tu parles d'un bon Internet. Comment on évalue les infrastructures pour préparer son voyage ou son séjour?
Moi, j'ai peut-être la paresse là, de faire tous les tests, machin, savoir combien. Je sais qu'il y a des gens qui louent des Airbnb et qui demandent vraiment d'avoir des captures d'écran pour prouver que l'Internet est efficace, là. Moi, généralement, je m'assure, avant même de partir, la première question que je pose, c'est comme à quoi ressemble votre Internet? Puis, tu sais, généralement, les gens sont assez. Ils vont pas me bullshitter parce que c'est clair que si la cliente est fâchée parce que c'est ce qu'elle cherche en numéro un, ça va pas bien. Mais tu sais, ça m'est arrivé aussi, pendant que j'étais en Colombie, il y avait un endroit où j'avais très envie d'aller. Internet ne fonctionnait pas bien, mais le réseau de cellulaire marchait très bien. Donc, j'ai pu aussi, pendant, c'était pas une longue période, c'était seulement quelques jours, j'ai pu travailler en branchant seulement mon réseau de cellulaire aussi. Ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'à une certaine époque où ça coûtait bien, bien cher de faire ça, tu sais. Donc, il y a ça aussi à évaluer dans l'équation, à quel point, combien de temps on est sur place. À quel point on a besoin d'un Internet performant. Moi, je ne fais pas des Zooms tous les jours non plus en voyage. Je vais peut-être parfois faire des chroniques radio à distance, mais dans ces cas-là, je vais vraiment m'assurer que justement Internet est adéquat. Puis souvent aussi, quand on regarde les commentaires des usagers dans les lieux où on loue, ça vient assez vite dans les commentaires.
Marie-Julie, en terminant, quel conseil tu donnes à des gens qui y pensent depuis un moment où là, sont sous le charme de dire, ah ouais, ça sera peut-être quelque chose d'intéressant. C'est quoi le conseil le plus important que tu leur donnes?
S'assurer effectivement qu'Internet où ils vont aller va être viable ou fonctionnel pour leurs besoins. Le décalage horaire, ça peut être une tranche importante. Moi, j'ai adoré le fait qu'il n'y avait pas de décalage quand j'étais en Colombie. C'est hyper pratique. Par contre, quand je suis en Europe, j'aime bien, bien ça aussi, avoir un peu plus de temps le matin pour finir mes textes que j'aurais probablement livré en retard dans la journée. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Puis peut-être, quand on parle d'initiation ou des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de séjour-là, il y a des options aussi qui existent du côté de Transat et Sunwing. Transat le fait en premier, là, c'est une espèce de collection hors du bureau. Ils ont identifié des tout inclus où on peut aller pendant 2 semaines ou plus parce qu'ils ont des bonnes connexions Internet. Donc, on se retrouve, par exemple, au Panama ou au Mexique ou quelque part. Et on a vraiment notre forfait tout inclus, mais avec un petit bureau, un espace pour travailler dans notre chambre et une bonne connexion Internet. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi comme type de forfait. Donc, forfait collection hors du bureau du côté de Transat, puis je sais que Sunwing a l'équivalent aussi. Ça peut être une chose chouette pour les gens justement qui cherchent une courte période, mais quand même avec un peu de confort, là. Puis bon, il y a des gens à suivre aussi qui l'ont fait à plusieurs reprises. Dans mon article sur avenue.ca, je parlais entre autres de Maude Carrier, je parlais aussi de Béatrice Bernard-Poulin, qui sont allées dans des endroits, entre autres, comme le Honda Hostel en Équateur. Donc, il y a plein d'endroits qui misent aussi sur cette clientèle-là qui est de plus en plus, qui répond à l'appel de plus en plus, là. Je pense qu'on recherche ces lieux-là et le mot se parle bien vite. Bref, il faut se renseigner puis réserver quand on est prêt parce que parfois, à certaines périodes de l'année, disons que l'hiver, quand il fait bien, bien froid au Québec, généralement, on a tendance à se ruer vers ces beaux bureaux au soleil, pas mal tous en même temps.
Marie-Julie, je vais rappeler que l'article dont tu parles, il y a un hyperlien que j'ai mis sur la
Oui.
page descriptive de l'épisode et donc les gens pourront se rendre là. Sinon, vous allez sur avenue avec es.ca et vous
Ouais.
cherchez Marie-Julie Gagnon. Vous allez voir, il y a un florilège de ses textes, de ses chroniques depuis bon nombre d'années. Je
Oui.
rappelle que à part d'être nomade numérique, tu es journaliste voyage notamment
Oui.
et puis qu'on peut retrouver de tes livres aussi en librairie. Alors, Marie-Julie Gagnon, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de ton temps entre deux destinations pour
Ah,
partager comme ça ton
merci
savoir.
Bruno, mais c'est bon aussi télétravailler de chez soi. On appelle ça du télétravail à la maison, non, hein? Oui.
Oui, ça, c'est pas mal ça. Ben, merci beaucoup, puis à la
Merci.
prochaine.
Bye
Bye.
bye, salut, merci.
Dans quelques jours, ce sera la nouvelle édition de la Semaine numérique à Québec, un événement d'apprentissage et de rencontres dans le secteur du numérique. Avec ses 4 jours dédiés à l'actualité numérique et à l'évolution technologique, cet événement de Québec réunit plus de 2 500 professionnels autour de 11 thématiques. Pour nous parler de cette 8e édition, je rejoins à l'instant à Québec le directeur général de Québec numérique. Bonjour Martin Boivin.
Bonjour Bruno.
Martin, on est à quelques jours de l'ouverture de la semaine numérique à Québec. Cette année, à quoi ça ressemble?
En fait, on garde les thématiques principales qu'on a toujours eues, puis on en rajoute des nouvelles. On a toujours eu tout ce qui touche l'intelligence artificielle et les données, la cybersécurité, le commerce en ligne, comme le fameux e-commerce, pour pas le dire en anglais. Puis, dans les nouveautés qu'on a cette année, en fait, on cherche à rassembler en fait la communauté entrepreneuriale davantage. Donc, on a une thématique en fait le jeudi qui est dédiée en fait à l'entrepreneuriat numérique, qui est une des nouveautés qu'on a. On a aussi le retour de la thématique en développement durable. On a aussi la thématique Industrie 4.0 qui est une nouveauté cette année aussi, qu'on teste voir
Donc plus dans
l'intérêt en fait
l'industriel.
de l'industriel. L'idée derrière tout ça, puis la raison d'être de la semaine numérique en fait, c'est de trouver un moyen de rassembler différentes verticales d'affaires, puis de tenter de créer une espèce d'horizontale où est-ce que tout le monde peut trouver son compte au même moment, puis développer peut-être des collaborations qui sont moins habituellement prévues. C'est-à-dire que d'aller dans un seul événement d'une thématique, puis on mélange tout ça, puis on vise à créer d'autres rencontres qui donnent Ils donnent un résultat quand même très intéressant. On a plus de 795 entreprises qui ont déjà confirmé leur présence, puis on a autour de 2 500 participants pour les 4 jours d'événements. Fait que c'est quelque chose de quand même assez intéressant. Donc, tout le monde trouve son compte d'une façon ou d'une autre. Puis, ce qu'on souhaite ultimement, c'est vraiment créer des collaborations qui vont être pérennes, mais peut-être avec des gens de différentes industries qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Fait que c'est l'idée derrière la semaine numérique.
Est-ce que ces nouveautés, je pense notamment donc à cette volonté de vouloir, ben, il y a évidemment l'industrie 4.0 là, mais aussi cette volonté de créer un moment où vous réunissez tous les gens ensemble. Est-ce que c'est dû à un apprentissage des 7 dernières éditions, puis vous dites on est rendu là dans l'évolution?
En fait, on l'a toujours fait.
Ben,
Dès
à
qu'on a
travers
débuté,
différentes
en fait, c'est qu'on
activités, oui.
c'est ça. Ben, dans le cadre de la semaine numérique, au départ, La semaine numérique était un peu, si on veut, un porte-étendard d'une volonté commune de la communauté numérique de la ville de tous faire des efforts ensemble. Puis au départ, au fondement même, chacune des thématiques avait leur propre événement, leur propre image de marque, puis leur propre lieu. Et 5 ans plus tard, on a pris la décision tous ensemble de tous se joindre ensemble à un seul lieu pour faciliter autant l'aspect, je dirais, logistique de la chose que de ne pas cannibaliser des clientèles qui seraient autant intéressées par deux thématiques qui se déroulent la même journée ou pas au même endroit dans la ville de Québec. Puis, de fil en aiguille, ben, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que avec les différents collaborateurs avec qui on travaille depuis longtemps, les marques n'avaient plus vraiment de sens parce que si on voulait vraiment que les gens comprennent qu'ils venaient à un seul événement, qu'ils venaient par rapport à certains intérêts et thématiques, mais comprennent qu'ils font partie d'un tout, on devait en fait, si on veut fondre les marques en une seule, dont la semaine numérique qui était le principal chapeau là, de tout ça. Fait que ça, c'est la réflexion qu'on a eue commune avec les autres collaborateurs. Donc, ce n'est pas une décision de Québec numérique en soi, mais vraiment une décision avec l'ensemble des personnes qui sont dans le projet depuis
De
les 8 dernières
l'écosystème que
éditions.
vous avez créé, quand même.
Exact.
Ouais.
Oui, c'est ça. L'idée est toujours de travailler de pair avec eux. Et donc, le succès de ce qu'on a en ce moment est autant attribuable à Québec numérique qu'aux autres organisations, notamment les Journées commerce, l'Université Laval, Québec international. Ce sont tous des joueurs qui sont là depuis le départ et qui ont contribué massivement au succès de l'événement.
L'événement là est devenu vraiment gros. Je regarde d'année en année, puis vous le dites là aujourd'hui, maintenant, c'est la somme de tous ces événements-là qui se retrouvent dans l'événement, le navire amiral là, qui va se passer dans quelques jours. Est-ce que, quand on est rendu gros comme ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire? Est-ce que, ou à la limite, est-ce qu'il y a des choses que maintenant vous pouviez faire que vous ne pouviez pas faire auparavant?
C'est une bonne question. Des choses qu'on ne pouvait pas faire, c'est de prendre, je dirais, des risques au niveau de thématique qu'on veut explorer puis voir si cette verticale-là s'est intéressée ou pas. Je dirais que c'est pas mal ça, les choses qu'on pouvait moins se permettre de faire maintenant qu'on a un certain volume, disons ça comme ça, un certain rapport de force. On peut se permettre d'aller plus dans l'exploration, je dirais, que de jouer très, très, très sécuritaire parce que on s'entend un événement, puis bon, je ne veux pas parler de la pandémie longtemps, mais ça fait mal. Dans le fond, l'industrie du rassemblement a mangé un dur coup, on se relève tranquillement. Et c'est certain que l'industrie du rassemblement, comme n'importe quel autre produit qu'on achète à l'épicerie ou quoi que ce soit, a aussi ses coûts, ses augmentations de coûts. Donc, les risques, on les avait, étaient plus présents dans le passé. Maintenant, on peut vraiment se permettre de tester, puis de voir ce qui fonctionne, puis de prendre une tangente, je dirais, plus axée, je dirais, vraiment vers l'accès de la collaboration. Oui, on a des formations de pointe, mais ce qu'on a surtout, c'est un grand ensemble de décideurs qui sont sur place, un grand ensemble de personnes qui sont des chercheurs de l'académique, puis on cherche à aller chercher aussi l'entrepreneuriat pour avoir vraiment un tout, puis d'avoir une espèce de 360 de ce que tous les utilisateurs du numérique sont. Fait que ça nous permet de faire ça maintenant parce qu'on est rendu plus grand, parce que le monde attire le monde. C'est toujours ça, un événement. On peut commencer à 200 personnes. Quand on commence à avoir des gros chiffres, là, tout le monde dit, ben, si je viens pas, j'ai l'impression que je manque quelque chose. Effectivement, tu manques tous les autres qui sont là actuellement. Donc, c'est sûr que cette opportunité-là, puis de développer davantage les opportunités de collaboration, ça va faire partie des grands alignements pour la suite aussi.
Et puis, ce qui est particulier à votre événement, c'est que, puis vous le disiez, c'est qu'à la fois, vous avez le secteur privé et vous avez le secteur public et vous avez le secteur académique. Et ça, c'est pas souvent qu'on voit, peu importe même l'endroit dans le monde, où on voit ces trois sphères-là être réunies, mais de façon très importante, là. C'est pas à négliger. Puis on le sent quand on se rend chez vous, on sent que ces trois réalités-là sont là et c'est impressionnant.
Ben, c'est quelque chose qu'on aspire à développer et à entretenir dans cette optique-là. Puis tout ça vient toujours encore, je le dis, c'est juste de la façon qu'on a rassemblé tout le monde puis qu'on a décidé qu'on voulait que tout le monde. Le point commun de tout le monde, c'est le numérique. De toutes ces industries-là, de quelle façon ça se vit à l'académique, de quelle façon ça se vit en entrepreneuriat, de quelle façon ça se vit en termes de développement durable, en cybersécurité. Il y a un paquet maintenant de secteurs qui sont, comment je pourrais dire ça, de plus en plus, qui font partie de notre quotidien. Je veux dire, si on se promène moindrement sur LinkedIn, puis qu'on parle de AI, puis de ChatGPT, on en parle quasiment. Je vois un post par jour, à tous les jours. Puis la vraie question, c'est de se poser à quel moment on n'entendra plus parler. Puis ça, c'est intéressant. La cybersécurité, il y a 5 ans, on avait déjà cette thématique-là. puis elle était loin, je m'excuse du terme, elle était loin d'être très sexy et attrayante. Maintenant, elle fait partie, avec la loi 25, entre autres, elle fait partie de notre quotidien. On entend parler de différentes situations de bonnes ou de mauvaises pratiques, de situations où il y a eu de la fraude, etc. Donc, ce sont tous des éléments qui touchent tout le monde, peu importe où est-ce qu'on en est. Fait que ça aussi, je dirais que c'est un des avantages qu'on a, c'est d'avoir toutes ces thématiques-là qui peuvent toucher à peu près n'importe quel secteur d'activité. Parce que maintenant, pour moi, le numérique, c'est un peu comme un outil, mais c'est un outil qui est, selon moi, puis c'est sûr qu'en tant que directeur général, je peux avoir l'air vendu là, de chez Québec Numérique, mais le numérique, pour moi, est un outil essentiel aux citoyens, aux entreprises, aux organisations, à l'académique. Il n'y a à peu près personne qui ne s'en sert pas. Puis si on ne s'en sert pas, ce n'est pas une obligation de s'en servir, mais si on ne s'en sert pas, clairement, on perd certains avantages concurrentiels pour la suite.
En terminant, ça, c'est ma question méchante. C'est ma question choix de Sophie. Si vous aviez un événement, une conférence à voir cette semaine, ce serait quoi? Ben justement, elle est méchante.
Je ne veux pas briser les égos de qui que ce soit. C'est sûr que la conférence d'ouverture de Revipore, qui associe à l'intelligence artificielle des données chez Deloitte, conférence d'ouverture, Revipore est très connue, elle est hyper pertinente dans son contenu. Je suis un fan personnellement. Donc, je vais y aller avec le côté émotif et non rationnel. Cette conférence-là, pour moi, est une des conférences à ne pas manquer définitivement. Est-ce que ça fait la conférence? Je pense que peu importe le secteur d'activité, on gagne à apprendre du contenu et la qualité du contenu que Revipore va pouvoir nous fournir lors de l'événement, définitivement.
Martin Boivin, je rappelle que vous êtes le directeur général de Québec Numérique. Vous étiez là pour nous parler de la semaine numérique. Ça se passe du 8 au 11 avril au terminal de croisière du port de Québec. Merci d'avoir pris le temps dans votre horaire de fou de venir me parler. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne édition. C'est la 8e. Chapeau pour être encore là à travers tout ce que vous avez vécu et en faire ce grand rendez-vous maintenant qui est devenu incontournable au Québec. Merci beaucoup puis bonne semaine numérique.
Merci Bruno. Bonne journée.
Cette semaine, le service infonuagique AWS de Amazon a annoncé un partenariat avec Mistral AI, la start-up française au cœur de l'innovation en intelligence artificielle. Ensemble, ils mettent une pierre de plus pour faciliter la démocratisation de l'IA générative avec le lancement de Mistral Large sur Amazon Bedrock. Ce modèle avancé d'IA va permettre d'ouvrir de nouveaux horizons en matière de compréhension, de transformation et de génération de code multilingue. Pour en parler, on va aller rejoindre à Lille, en France, Sébastien Stormack. Il est évangéliste chez AWS, mais aussi, vous le connaissez peut-être comme l'animateur du podcast francophone d'AWS. Bonjour Sébastien.
Bonjour Bruno.
Hey Sébastien, donc grosse nouvelle, je le disais, c'est l'annonce de l'arrivée de Mistral, cette IA française au cœur des outils de Bedrock. Mais avant d'aller plus loin dans cette annonce-là, est-ce que c'est possible pour toi de nous dire Bedrock, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui nous écoutent, je suis sûr qu'ils n'ont aucune idée ce que c'est.
Ouais, Bedrock, c'est un service qui permet aux développeurs d'accéder à large language models, des modèles de fondation, des grands modèles, simplement avec un simple appel d'API. Parce que si des développeurs qui nous écoutent ont déjà essayé d'installer un de ces modèles sur leur laptop, il faut le télécharger, déjà c'est grand.
Ouais.
Puis il faut mettre des drivers pour le bon GPU, il faut avoir une machine avec un GPU, il faut installer des librairies Python, il faut démarrer le truc, il faut mettre peut-être une couche d'API d'HTTP devant pour recevoir des ordres qui viennent d'une autre application. Bref, c'est pas facile. Et avec Bedrock, c'est aussi simple que appeler une API. J'appelle une fonction, je passe ma question et je reçois la réponse. Ça, c'est la première partie de Bedrock.
Ouais.
Et puis, la deuxième partie, c'est si je veux entraîner les modèles pour les rendre personnalisés par rapport au jeu de données que moi j'ai. Là aussi, si on veut le faire à la main, soi-même sur ses serveurs, ça prend beaucoup de temps. Avec Bedrock, c'est aussi simple que dire, voilà, j'ai un ensemble de documents qui sont sur Amazon S3, le système de stockage de fichiers, à tel endroit. Je veux prendre tel modèle de l'étagère, je veux le personnaliser. On clique sur un bouton, on attend plus ou moins longtemps, ça dépend de la quantité de données, et on a un nouveau modèle prêt à l'emploi. Donc, c'est vraiment accès à des large language models comme un service facile à consommer pour les développeurs.
Et déjà, avant l'annonce de cette semaine, Bedrock, t'as quand même fourni un outil, là. Bon, ça fait un moment que je regarde ça, là. Entre autres, moi, mon préféré, c'est l'outil d'Anthropic, là. Il y avait la famille des Claude qui est à l'intérieur, mais il y en avait d'autres. Il y avait celui qui avait été développé par Meta. Il y avait d'autres choses qui étaient là. Quand on regarde la fondamentale des outils qui sont offerts dans Bedrock, est-ce que tu dirais que c'est principalement un marché de développeurs pour des organisations où il y a des développeurs indépendants qui l'utilisent, de par tout l'outillage qui est disponible là-dedans?
Ça permet vraiment de, Bedrock permet vraiment de démocratiser l'accès à ces outils. Là où c'est compliqué de le faire avant, avec Bedrock, c'est assez simple. J'aime bien résumer Bedrock avec trois lettres. C'est le choix. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de fournisseurs qui vendent, enfin, qui mettent à disposition, oui, qui vendent, puisque c'est facturé quand même, qui vendent leur modèle à travers Bedrock. Tu as signalé Meta avec Llama, Cohere, Anthropic, maintenant Mistral. Donc, ça, c'est le premier C, le choix. Vous avez le choix des modèles. Le deuxième, c'est le coût. On essaye de vous offrir le coût le plus faible possible. Et c'est un coût à la demande. Donc, c'est au nombre de tokens.
C'est vraiment l'utilisation. Hein,
le nombre de mots. Si tu n'utilises pas, tu ne payes pas. Et puis, après, tu as une petite facturation, 0,0 quelque chose, ça dépend des modèles, par milliers de tokens rentrant ou sortant. Et le troisième C, c'est la confidentialité. Les données qu'on utilise pour entraîner ces modèles, si on veut les personnaliser, si on n'est pas content avec le modèle tel qu'il est fourni par le vendeur, mais qu'on veut l'entraîner avec ces données à soi, nos données à nous, elles restent dans la sécurité de mon compte AWS, de mon réseau AWS, avec tous les outils de gestion et de gouvernance des données qui sont déjà disponibles sur AWS.
Alors, maintenant qu'on a fait un bon boulot à présenter ce qui est Bedrock, là, la grosse annonce cette semaine, j'ai l'impression de dire que c'est autant une grosse annonce pour les Français parce qu'ils ont un outil finalement qui est reconnu, mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour les francophones, puis même les autres, hein, parce que bon, ça fonctionne pas qu'en français, là, mais pour les francophones de la planète, de voir que maintenant, Bedrock inclut les outils nécessaires pour utiliser Mistral, qui fait très fort dans la compréhension, dans la transformation, puis la génération de code. Et tout ça dans une langue française, sachant même que, puis ça, je veux faire un petit coup de chapeau à Claude III, qui le fait très bien en français. Moi, je trouve ça fascinant de travailler. Je travaille beaucoup avec lui. Mais donc, de voir Mistral arriver au cœur de Bedrock, c'est pas banal.
Alors, je vais rester sur mon nombre 3, mon nombre fétiche de cette discussion. Il y a trois bonnes nouvelles. La première, pour la France spécifiquement, c'est que Bedrock est maintenant disponible sur la région AWS Paris. Ça veut dire que les clients français peuvent avoir la certitude que leurs données d'entraînement de modèles personnalisés restera sur la région Paris, comme ils ont l'habitude pour toutes les autres applications. Ils ne doivent plus envoyer leurs données à l'extérieur
s'ils veulent utiliser Bedrock. C'est un contexte d'IA souverain, là.
L'infrastructure pour tourner ce Bedrock est à Paris. Les clients peuvent l'utiliser. C'est bon pour la latence aussi. Ça prend moins de temps que de traverser l'Atlantique et de revenir. L'autre bonne nouvelle, c'est que Mistral, c'est aussi une société européenne et française. Et donc, en tant qu'Européen, on peut se dire finalement, il n'y a pas que des acteurs nord-américains dans ce monde-là. Et puis, le troisième, c'est pour toute la francophonie, comme tu l'as dit, parce que Mistral était déjà là depuis quelques semaines sur Bedrock avec les modèles 7B et le modèle qui s'appelle Mistral. La nouveauté annoncée cette semaine, c'est Mistral Large, qui est un modèle extrêmement grand, extrêmement compétent. Et il se différencie des autres de deux manières. Une, c'est qu'il a été spécifiquement entraîné sur des langues autres que l'anglais, l'allemand notamment, le français notamment. Je n'ai pas toutes les langues en tête, je crois qu'il y a l'italien aussi. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs langues. Alors que, comme tu disais, Claude 3 est déjà très bon dans des langues autres que l'anglais, mais il n'a pas été entraîné spécifiquement pour ça. Tandis que Mistral, lui, il a été entraîné spécifiquement pour ça. Donc, on peut s'attendre à des qualités de résumé, de traduction, de génération de texte encore meilleures. Et puis là où Mistral Large est très bon, c'est dans sa capacité d'appliquer du raisonnement. Et on lui donne un fichier JSON, par exemple, on lui demande de trouver des valeurs minimum, maximum ou des choses comme ça. Il est capable de faire ça. Là où les autres modèles avaient un peu plus de mal, où il fallait découper les tâches en une suite d'actions individuelles, lui, il est capable de le faire d'un seul coup. Et donc, je suis très impatient de voir ce que les développeurs vont faire avec des agents. Parce que les agents, tu sais, c'est cette technique qui consiste à utiliser comme un orchestrateur de flux pour découper une tâche en plusieurs tâches et demander à un large un large language model de générer la tâche suivante que lui-même va faire, etc.
Tout
Et ça
fait.
permet de faire des choses extrêmement poussées. Et Mistral Large se prête particulièrement bien à ce jeu-là grâce à ses capacités de raisonnement relativement haut niveau.
Oui, puis quand on le compare aussi aux autres outils d'IA qui sont disponibles dans Bedrock, on le sent que c'est un natif européen. Et ça vient aussi avec son bagage, sur les trousses d'apprentissage qu'il a utilisées. Moi, je trouve ça fascinant. Il y a des questions très nord-américaines où il a de la difficulté, mais du moment qu'on cherche des trucs très nichés au niveau de l'Europe, c'est comme instantané. C'est
Au niveau de la
assez
culture
fascinant.
générale, au
Oui,
niveau des
exactement.
connaissances, exactement. Ouais.
Et ça manquait comme outil. Mais là, si je demandais, qu'est-ce que ça vient ajouter à l'offre de Bedrock?
Eh bien, un modèle de plus, c'est mon premier C, c'est le choix.
Il en
Un
reste deux
modèle.
après, hein?
Un modèle n'est pas l'autre, et en fonction de la tâche qu'on veut faire, du prix qu'on est prêt à payer, des temps de latence qu'on est prêt à accepter dans son application. Pour certaines applications, pour certains développeurs, ils auront intérêt à travailler avec un modèle plus petit ou plus spécialisé là-dessus ou différent. Pour les tâches de raisonnement, de réflexion assez pointues, dans des langages autres que l'anglais, Mistral Large permet permet aux développeurs maintenant d'accéder à ce type de fonctionnalité. Donc, ça enrichit la sélection de modèles possibles sur Bedrock.
Mais pour AWS, stratégiquement, pourquoi c'est important d'amener un joueur européen comme ça?
Surtout de donner le choix à nos clients. Si tu regardes ce qu'AWS fait depuis 18 ou 20 ans maintenant, on a commencé avec des virtual machines. On a plus de 700 types de virtual machines maintenant. On pourrait nous dire, pourquoi 700 types? Bah, parce que tous les développeurs ont des besoins différents. Et dans le monde des large language models et de l'IA générative, bah, c'est exactement la même chose. Les développeurs ont des besoins différents. C'est important de leur donner le choix. C'est, à ma connaissance, c'est un des rares outils où avec une seule API, un seul modèle de facturation, etc., on a accès à toute cette palette d'outils, ce qui permet d'expérimenter aussi. Je suis en train de développer des applications, des prototypes ou des démos, et j'essaye ces différents modèles. Je peux très facilement, juste en switchant le modèle ID, dire j'essaye la question sur Claude, et puis j'essaye sur Mistral, et je vois ce qui donne le mieux pour mon use case spécifique, pour mon cas d'utilisation spécifique.
Alors, quelqu'un qui est intéressé d'aller essayer Bedrock, la façon la plus simple de s'y rendre, c'est comment?
Pour avoir un compte AWS, mais enfin, ça, c'est pas très compliqué. Une
ça,
adresse
ça va.
email, un numéro de téléphone, une carte de crédit. Je suppose que vous avez déjà ça. Vous allez sur la console d'AWS, vous sélectionnez le service Bedrock. En haut à droite, vous choisissez la région. Il est disponible dans plusieurs régions, US East, US West, donc Oregon, Virginie du Nord. Il est disponible en quelques régions, en Asie et en Europe, Francfort et Paris, donc depuis cette semaine. Vous avez une console graphique avec un playground, un bac à sable, on peut dire ça comme ça, qui permet d'expérimenter les différentes API. Donc, avant de devoir écrire du code, je peux quand même taper mon prompt, essayer un chat, essayer la génération d'images, régler les différents paramètres de façon graphique dans la console, histoire de ne pas devoir passer par un cycle de je code, j'essaye, ça ne marche pas. Voilà. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on a le bon prompt qui fonctionne, après on peut écrire du code. Et mes collègues ont développé toute une librairie d'exemples de code en Python, en C# pour .NET, en JavaScript, pour pouvoir intégrer ainsi Bedrock dans les applications. Mais je le répète, c'est vraiment un produit pour les développeurs d'applications, pour intégrer des fonctionnalités liées à ces large language models dans leurs applications, qu'elle soit serveur ou cliente.
Sébastien Sormac, évangéliste chez AWS, mais aussi animateur du podcast francophone d'AWS. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions et puis je te dis à bientôt.
À bientôt, Bruno.
Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
Autour de mes collègues, et on commence avec Stéphane Ricoul qui, cette semaine, réfléchit au nouveau rôle de la lumière.
La lumière, autrefois captée et inscrite à jamais sur une pellicule, est aujourd'hui enregistrée sous forme de pixels, qui à leur tour sont transformés en informations et servent désormais de moyens de manipulation. La photo numérique suspend ainsi une certaine croyance spontanée que la photo analogique portait en elle, comme le disait si bien Bertrand Stiegler. Philosophe français, décédé en 2020, Stigler a développé sa propre philosophie de la technologie, affirmant que les humains sont indissociables de la technique qui les définit. Cette philosophie m'est revenue en mémoire suite au post publié par Bruno Guglielminetti dans LinkedIn de cette jeune femme nous parlant depuis sa voiture. Jeune femme que la grande majorité d'entre nous a cru créée de toutes pièces par l'intelligence artificielle, mais qui au final, suite à une recherche puis à une mise à jour par Bruno lui-même, s'est avérée être une vidéo préenregistrée par un modèle sur laquelle on a ajouté ensuite la voix et le texte du client. On est bien loin, effectivement, de la croyance spontanée de la photo analogique. Toujours selon Bertrand Stiegler, l'évolution de nos manières de produire les images influence nos manières de croire en ces images. À chaque technologie de production d'images correspond un régime de croyance différent. C'est un des cofondateurs du magazine Wired, Kevin Kelly, qui disait que pendant toute l'existence humaine, on ne pouvait pas savoir si quelque chose était vrai ou non. Puis, nous avons eu ce bref moment où la photographie est devenue une preuve pour prouver quelque chose. Aujourd'hui, nous en sommes revenus exactement à la même chose, à savoir que le seul moyen de vérifier la vérité est de faire confiance à la source. À une époque où la confiance est au plus bas et où n'importe quelle image aléatoire peut être diffusée dans le monde entier en un instant, ce n'est pas très rassurant. Pourtant, tout être humain que nous sommes, savons pertinemment bien qu'une seule image n'est pas la vérité, mais que cette dernière est nécessairement un exercice collectif et que de surcroît, c'est cet exercice collectif qui préside à la constitution des sociétés. Mais voilà, ce n'est pas ainsi que les géants du numérique l'ont voulu, nous embarquant tranquillement pas vite dans leur désir de réingénierie sociale, faisant en sorte qu'aujourd'hui, nous croyons ce que nous voyons, sans esprit critique, sans prise de recul, sans le moindre questionnement, nous laissant tout bonnement embarquer dans le sensationnalisme facile, dans le fast-food de l'actualité à consommer et à vomir le plus rapidement possible. Nous sommes les véritables enfants de la Silicon Valley. Nous avons été éduqués ainsi. Ça va prendre quelques rebelles parmi nous pour remettre en question l'autorité parentale, car à la vitesse où vont les technologies liées à l'intelligence artificielle générative, nous n'avons pas le temps d'attendre de faire notre crise d'adolescence et chercher à prendre notre place dans la société. À chaque seuil franchi par la technologie dans la création d'images, un nouveau paradigme de croyance s'est cristallisé, métamorphosant notre lien aux images, oscillant entre miroir fidèle du réel et échafaudage de mondes inédits. Cette évolution n'est pas anodine. Elle constitue un axe fondamental pour saisir l'impact profond sur les tissus mêmes de nos sociétés. Jadis, les peintures rupestres, les effigies divines et les icônes sacrées étaient investies d'une aura mystique, révérées comme des fenêtres sur le divin. L'avènement de l'imprimerie bouleversa cet ordre établi, démocratisant l'image, la rendant prolifique et accessible. Pourtant, cette révolution n'a pas immédiatement démystifié l'image aux yeux de tous. Elle conservait pour certains une essence quasi magique, à l'image de ces paysans craignant que la photographie ne capture leur essence même. Avec l'ère numérique, s'est déployée une infinité d'images virtuelles, de réalités augmentées, d'hologrammes fascinants, brouillant davantage la frontière entre le tangible et l'illusoire. De la vénération des idoles à la confusion contemporaine, l'histoire de l'image révèle les multiples actes d'une comédie humaine riche et complexe. Face à cette déferlante d'images synthétiques, sommes-nous réellement plus éclairés que le paysan d'antan devant son premier cliché photographique ? Il est permis d'en douter. Peut-être que ce paysan, dans sa méfiance instinctive, touchait à une vérité que nous peinons aujourd'hui à discerner alors que nous nous croyons tellement intelligents. La technologie dans son ascension silencieuse orchestre un subtil larcin, un vol poussant l'audace jusqu'à s'approprier indûment une idée, une création ou une information qui ne nous appartient pas, voire qui n'existe peut-être même pas, une forme de plagiat, de vol intellectuel ou de braquage d'un bien qui n'existe peut-être même pas lui-même. Mais aussi un rapt de confiance, un rapt éthique, un rapt de notre conscience collective. c'est un appel à la vigilance, à une réflexion approfondie sur la portée véritable des images qui tissent la trame de notre société quotidienne. Je tiens à exprimer ma gratitude envers Bruno Guglielminetti pour son précieux rappel à l'ordre, ainsi qu'à Alexandre Teodorescu, David Usher et Essar Arida, qui ont brillamment endossé le rôle de sentinelle critique face à cette vidéo troublante de la jeune femme en voiture dans le poste de Bruno. Ces éclaireurs, dotés d'une maîtrise exceptionnelle des technologies de pointe en matière de création d'images, nous montrent la voie. Toutefois, leur expertise reste un idéal difficilement atteignable pour le grand public, confronté à une réalité bien différente, la fracture numérique profonde qui traverse nos sociétés. Cet écart souligne l'urgence d'une éducation renforcée face aux stratégies de manipulation toujours plus sophistiquées déployées par les puissances dominantes. C'est un cri d'alarme pour la sauvegarde de nos démocraties, un appel pressant à l'éveil des consciences et à l'armement intellectuel de chacun dans cette ère de l'information.
Eh bien, comme à l'habitude, à ce moment-ci, on va rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, cette semaine, tu nous proposes la seconde partie de ta rencontre avec Alexia Danton de Figma.
Ben oui, cette semaine, on fait la suite de l'entrevue de la semaine dernière avec Alexia Danton de chez Figma. Et on parle d'effectivement l'événement, hein, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, le très gros événement de Figma. Et c'est effectivement vraiment très gros parce que c'est le seul logiciel pas mal qui reste dans la gamme des logiciels de ce genre-là pour conceptualiser des prototypes là, pour le numérique en général. Donc, étant les plus gros et comme l'offre d'achat d'Adobe n'a pas été acceptée, donc on passe maintenant à un autre épisode. Je pense que, comme on le disait la semaine dernière, Adobe ne reprendra pas le logiciel XD. Donc, il ne reste vraiment que Figma dans le marché. Et on sent une petite expansion philosophique dans l'événement de cette année. Là, on ne parle pas juste de Figma, de ses améliorations, mais on y va dans le sens plus large d'une conférence sur le design. Ça a l'air de ça promet, je dirais, d'être pas mal intéressant.
Ben voilà, la table est mise, on va aller écouter ça. Merci pour cette suite. Et puis, ben Jean-François, nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, Bruno, comme d'habitude. À la semaine prochaine.
Allez, bye.
Bye.
On écoute tout de suite cette suite de l'entrevue avec Alexia Danton.
Bonjour, Alexia. Parle-moi donc de Config 2024. Ça arrive donc bientôt, c'est en juin, vous venez de sortir la programmation. Parle-moi-en un peu, il y a des thèmes déjà. Parle-moi des thèmes qui vont être abordés lors de cette grande conférence.
Merci de me voir à nouveau, Jean-François. Et bien oui, du coup, on a une super conférence qui arrive fin juin. Ça va être à San Francisco, en présentiel, pour ceux qui ont la chance de venir en présentiel. Et évidemment, comme on sait, on n'a pas forcément envie que tout le monde viennent directement, parce qu'on sait que ce n'est pas possible pour tout le monde. On aura une partie à distance en virtuel que les gens pourront rejoindre. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et donc, comme tu disais, on a sorti la programmation là, il y a très peu de temps. On a à peu près, je crois, plus de 75 speakers avec des grosses pointures. On retrouve quelques têtes de l'année dernière, mais on a quand même pas mal de nouveaux profils. On a les grosses, comme je disais, les grosses pointures, on a du Disney, on a le VP design de Slack, on a vraiment des grosses boîtes. Oh, on a aussi des wildcards, donc j'ai hâte de parler. Ah. Et les 5 grands thèmes qu'on a cette année, alors on a une thématique qui est très orientée sur la notion en fait, de création de produits au sens très large, où ça va parler à la fois design et à la fois produit, donc qu'on appelle en anglais Building World Class Products, en chinois dans le texte. On a une deuxième partie qu'on va appeler, en gros, code et design, où on va vraiment se concentrer sur la relation entre le design et le développement. On va avoir une partie qui va être très ancrée sur le craft design en particulier, où là, ça va vraiment, on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans la partie très geek du design. On a une partie qui s'appelle The Future of AI, où évidemment, on ne peut pas y échapper. On est en 2024, ça va parler d'IA. Et là, c'est la partie très intéressante qui risque de prendre un peu la main stage. Comme je le disais, on a un peu eu la volonté de rebattre un peu les cartes cette année et de faire des choses qu'on ne nous attendait pas forcément, parce que c'est aussi ça, être créatif. Et on a une partie qui va s'appeler Designing for Everything. Et c'est du coup une partie qui va au-delà du digital, où en fait, on va juste faire intervenir des gens qui sont dans la création au sens très, très large.
Wow.
Des installations artistiques jusqu'au film, énormément de choses. Alors, je pense notamment dans les speakers auxquels les gens ne s'attendent pas forcément, on a le réalisateur du film Capote et Moneyball qui va venir, Bennett Miller. On a le cofondeur de Team Lab, pour ceux qui aiment faire les expositions d'art contemporaine. C'est les expositions, peut-être que vous avez déjà vu les photos, c'est les installations interactives lumière avec lesquelles on peut interagir dans l'espace.
Oui, oui, oui.
On a qui d'autre d'intéressant? On a Simon Green qui est créature designer pour Disney, qui fait en fait, wow. Si vous voyez des créatures dans des films, bah, y a des personnes qui réfléchissent à ça ressemble à quoi une créature qui n'existe pas. Comment est-ce qu'on l'a créé, à quel point ça ressemble et comment est-ce que derrière on lui donne vie, bah, y a des gens qui font ça et donc on les invite aussi.
Mais oui, c'est voilà. Bien, c'est génial parce que quand même à travers l'utilisation de logiciels comme Figma, à un moment donné, on commence à avoir l'impression de créer des techniciens, mais avant tout, les gens qui utilisent Figma, c'est des designers, des créatifs, des créateurs qui veulent réinventer le monde, réinventer les interfaces une à la fois. Donc, c'est vraiment intéressant comme thème, très, très complémentaire. Mais l'AI va être là aussi. L'AI inquiète tout le monde, tous ceux qui sont sur le terrain de première ligne, surtout dans le domaine du UX. On se demande où ça s'en va. On a entendu parler dans l'année qui vient de passer de la possibilité de créer de l'interface avec de l'AI, comme les codeurs sont un peu nerveux aussi à savoir comment leur métier va être redéfini par l'AI. Donc, c'est une belle ligne qui devrait prendre de la place aussi, probablement.
Bah, tout à fait. Alors, il faut savoir, du coup, que pour ceux qui ne connaissent pas très, très bien Config aussi, c'est le gros moment de l'année où, en fait, on fait nos grosses annonces produits. C'est-à-dire qu'on sort évidemment des updates produits tout au long de l'année. Mais on en réserve quand même sous le coude deux, trois qui ont un fort, très, très, très fort impact. On sait où les gens vont être soit ultra intéressés, ou en tout cas, ça peut être soit des fonctionnalités pardon, très attendues, soit des fonctionnalités pas forcément attendues. Je pense notamment à DevMod l'année dernière, en fait, qui est arrivé un peu en sous-marin. Les gens ne savaient pas forcément qu'on travaillait dessus, contrairement aux variables et aux design tokens, où on avait parlé très publiquement du fait qu'on savait que c'était attendu et qu'on allait sortir.
Oui.
Exactement. Mais DevMod, c'était quelque chose. Les gens ne savaient pas qu'on travaillait dessus. C'est sorti et ça a créé du coup un gros engouement. Ça a créé beaucoup d'impact. On voyait sur les réseaux, beaucoup de discussions sur c'est un parti pris vachement intéressant.
Mais oui.
Aussi, il y a des gens qui se posaient pas mal de questions sur la tête que ça allait prendre. C'est normal. Et du coup, donc, cette année, à nouveau, on va sortir des choses. Je n'ai pas le droit d'en parler. Je sais lesquelles, mais je ne vais pas dire. Ça, par contre, si, je peux spoiler dans le sens où je pense que ça ne surprendra personne, effectivement, que l'IA va faire partie, d'une façon ou d'une autre, de certaines des choses qu'on risque de sortir. Mais après, le comment, c'est là où ça devient très, très intéressant. Et c'est là où, en fait, Figma a un peu sa propre approche des choses. Et on est tout à fait conscience chez Figma qu'il y a énormément de discussions sur l'IA, sur l'impact que va avoir l'IA sur nos métiers, sur nos vies quotidiennes. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que le parti pris qu'on a de ne pas aller à fond très rapidement. Enfin, je me souviens, l'année dernière, tout le monde nous attendait en 2023 sur l'IA parce que c'était le sujet du jour dans les mois qui précédaient.
Oui.
Et on en a beaucoup discuté, on a créé beaucoup d'espace pour discuter de ces sujets-là. On a fait venir des pointures, je pense notamment à Beta Simpsons qui travaille sur la partie UX Machine Learning à Google qui revient cette année également. Qui avait été extraordinaire l'année dernière. Je recommande d'ailleurs sa talk, elle est disponible sur YouTube si vous voulez la revoir. Et donc, on fait venir ces différents. L'année dernière, on avait créé ces espaces de discussion-là, mais on n'avait rien sorti de concret. On avait annoncé le rachat de Diagram, qui maintenant travaille avec nous main dans la main depuis un an. Mais parce qu'il y avait cette volonté, en fait, de ne pas tomber dans le hype cycle dans lequel tout le monde était. De se dire, ça ne sert à rien de créer des choses juste pour les créer, juste pour dire, on est dedans, on est sur le coup. On reste une entreprise centrée design first and foremost. Et du coup, la question, c'est, good design avec IA, ça ressemble à quoi? Et donc, il y a plein de choses différentes sur lesquelles on est en train de travailler, je ne veux pas pouvoir détailler. Mais cette année, donc, on va sortir des choses là-dessus. Donc, forcément, on recrée des espaces à nouveau de discussion autour de ça à Config. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, ça ne va pas prendre tout l'espace. Ça va prendre un gros espace. Je ne dis pas, on est très, très, je pense, enthousiaste sur les choses sur lesquelles on travaille. On pense qu'on a vraiment réussi à trouver des endroits où ça va vraiment apporter de la valeur. Et comme je disais, un peu faire du good design, c'est-à-dire good design is no design. Good design, c'est le design invisible.
Exact.
C'est le truc qu'on le fait, quand on l'utilise, on se dit que ça aurait toujours dû être là et on ne le remet même pas en question.
Exactement.
De la même chose avec les...
Ah ouais, bien vu. Donc, ça promet ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est un angle, je pense que tout le monde s'y attend un peu. En fait, c'est pas une question qui est inquiétante autant qu'on veut savoir comment on va l'intégrer intelligemment. Tout le monde veut le savoir. Et c'est vrai que l'année dernière, à la même époque de Config, en juillet, juin, c'était trop tôt, je crois encore. Le ChatGPT venait de sortir, tout le monde était un peu étourdi par ce que ça pouvait faire. Et là, on commence à se demander, en tant que designer, comment on peut l'actionner? Comment on peut utiliser cette puissance-là dans nos designs? Mais comment nos outils de design vont être actionnés par par l'IA aussi là, dans les prochains mois. J'ai bien hâte de voir ça. Ça va être un événement.
J'ai hâte qu'on puisse le présenter à tout le monde. Et ce que je disais, c'est même au niveau de la programmation, du coup, on va à nouveau avoir des grosses pointures. Et je disais, on a beaucoup de sujets sur l'IA pour parler de trois entreprises. Je ne sais pas si les gens ont vu passer le petit boîtier qui s'appelle Humane, qui a fait un petit peu le buzz à un moment donné.
Oui, qui est du No Interface, en fait. Ouais.
On a le président et le Chief Design Officer du coup de Humane qui viendra parler. On a le CEO de Perplexity IA. On a qui d'autre qui est assez intéressant. Alors, on a l'ancien CEO de Instagram qui maintenant est CEO de Artifact et qui justement travaille sur des problématiques de machine learning. Comme je disais, on a Obeta Samson qui va revenir. Bref, on a beaucoup de monde. Mais ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'à côté de ça, il y a un vrai ancrage dans les discussions autour du craft et de la création qu'on va aussi avoir. Et je pense que du coup, le fait d'avoir ces deux-là en équilibre l'un avec l'autre, c'est ça qui va vraiment apporter de la valeur dans la discussion. Si on reste écouté tech et IA tout le temps, on perdrait beaucoup de dimensions. Et en fait, c'est justement cette interface avec la notion de créativité qui va être intéressante et de repenser la notion de créativité en interface avec l'IA.
Et ça ramène au questionnement qu'on se posait dans notre précédente entrevue la semaine dernière, c'est quoi la valeur d'un designer à l'intérieur d'une organisation qui sont encore très majoritairement gestion, IT, et nous, on vient challenger ces préceptes-là, on vient challenger leur façon de faire. Donc, l'idéation et ce que vous voulez présenter dans cet événement-là, c'est très porteur, c'est super intéressant.
Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, justement, dans un contexte où le métier qu'on fait n'est pas toujours compris, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent en se disant, mais est-ce que du coup, les gens vont pas, les autres, nous, on sait qu'on on apporte de la valeur, mais est-ce que d'autres personnes risquent de penser, ne serait-ce que temporairement, qu'en fait, ils n'ont plus besoin de nous, quoi. Comme je disais, encore une fois, Il faut qu'on revienne. J'ai vu, en fait, c'est marrant, j'ai vu ce documentaire il y a quelques semaines. Il était en replay. C'est un documentaire de 2009 qui s'appelle Objectified, qui est sur le design industriel. Et il y avait les débuts balbutiants du design d'interface qui sont évoqués dedans. Et moi-même, je viens d'un background, d'un parcours de design industriel à l'origine. Oui. Donc, c'était le genre de choses qui me parlait beaucoup. C'était ce type de documentaire que je consommais à l'époque quand j'étais dedans. Et en fait, revenir là-dessus, Ça m'a permis de revenir à vraiment à la question de base de c'est quoi le design, pourquoi est-ce qu'on design, c'est quoi la valeur, c'est pas juste la valeur business, même si c'est ça qui nous aide à nous justifier.
Oui.
mais c'est vraiment en fait le fait d'apporter un point de vue. Et je pense qu'en fait aussi en parlant tout le temps des métriques, parce qu'on a l'impression qu'on est tout le temps en train de devoir se justifier, parfois on perd un petit peu de vue en fait le fait que on apporte une perspective, enfin que le design c'est pas juste un jeu de métriques. C'est aussi un jeu de point de vue, un jeu de perspective. Que ce qu'on apporte, c'est vraiment des notions, pas philosophiques, mais peut-être éthiques aussi. Mm-hmm. En tout cas, juste en gros, good design.
Ouais.
C'est pas juste le design qui marche. C'est un peu une espèce de magie supplémentaire. Et ça, le fait d'arriver à identifier, non seulement à le créer, que ce soit par composition, parce que c'est peut-être pas juste des trucs qui viennent de notre tête tout nul. Hein, ça peut être. De toute façon, la créativité, c'est rarement des choses qui naissent dans le vide. C'est toujours des jeux d'influence, de morceaux de puzzle qu'on a récupérés à droite, à gauche et qu'on décide d'assembler différemment.
Des contraintes, etc., des enjeux, oui, effectivement.
Exactement. Et ça, on pourra toujours le faire. Et du coup, la façon dont on arrive à créer de la culture ou des moments de culture, arrive à créer du zeitgeist, arrive à créer des choses par ce jeu d'imbriquage que nous, on fait en tant que en fait, esprit créatif, en tant que designer, ça, je pense que ça restera toujours. Et pareil, comment est-ce qu'on crée des choses où nous, intuitivement, on sait que ça aurait toujours dû être là, ou en tout cas, les gens, ils vont toujours avoir l'impression que c'était ultra naturel de l'avoir. Mmh. Pareil, ça, je pense que c'est pas forcément... Ça demande une certaine sensibilité. Et c'est cette sensibilité, on en parlait la semaine dernière, du fait de devoir assembler tout le monde en atelier pour avoir justement toutes ces perspectives et avoir un peu tous les biais cognitifs différents qui s'annulent les uns les autres. Et je pense très profondément que tout le monde n'a pas forcément cette perspective-là, et c'est une des perspectives que nous, en tant que designer, on peut apporter.
Exactement. Wow! Donc, écoute, config 2024, on s'y retrouve, parce que si toutes ces choses-là sont discutées, là, ça va être vraiment passionnant. Parfait, Alexia, merci beaucoup pour cette seconde entrevue.
Merci beaucoup à toi encore, Jean-François.
Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, portez-vous bien.